Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto Sperber. Conjugalité et vie commune avec Claude Habib. Le lien amoureux, la vie à deux, le mariage, peuvent-ils être, pour reprendre des expressions qu'Isabelle de Charrière employait en 1790, un doux, tendre et fort lien au lieu d'une raboteuse, pesante et pourtant fragile chaîne? Davantage, la vie commune est-elle le lieu d'un accomplissement, d'une recherche, d'un bien poursuivi à deux? Ne serait-ce pas là une des illustrations les plus fortes de ce que peut être un lien humain et un lien amoureux? Merci Claude Habib de participer à cette émission, de conduire cet entretien avec nous. Vous venez de publier aux éditions Flammarion « Le goût de la vie commune ». C'est un titre qui vous ressemble d'une certaine façon. Et vous dites d'emblée « Vivre en couple, c'est prendre la décision de mettre l'autre au centre de sa vie ». Qui prend cette décision?
Oui, c'est un peu excessif.
Cette décision est-elle prise indépendamment d'une volonté?
Oui, c'est un peu excessif d'en parler en termes de décision. C'est sûr que cette formule qui insiste sur la volonté ne ressemble pas au cours des choses où ça se fait. À un moment, il paraît certain que c'est ce qu'on souhaite et qu'on ordonne sa vie en fonction de cette priorité. Il y a quelqu'un qui passe avant les ambitions, les ressentiments, les devoirs. Il y a le bien-être de quelqu'un qui devient la priorité.
Mais que signifie vivre? Vivre, c'est avoir un autre avec soi pour un projet, savoir que l'on peut compter sur une personne, qu'elle sera là, que les épreuves, lorsqu'elles se présenteront, pourront être traversées à deux. Ou bien est-ce que vivre a un sens beaucoup plus concret, beaucoup plus quotidien et plus prosaïque, c'est-à-dire véritablement la vie commune?
Moi, je donne les deux sens. Le sens prosaïque, il est évident, enfin, c'est élémentaire. Encore que, je pense qu'il y a des existences de couple dans la séparation et que le lien, c'est gênant de dire conjugal parce que ça peut être un compagnonnage, c'est pas forcément passer devant le maire ou le curé, mais le lien de cette priorité, l'autre compte plus que tout, peut résister à des absences de familiarité, de présence.
Alors, précisons bien les choses pour que nos auditeurs ne croient pas que nous faisons un plaidoyer pour le partage d'un appartement et puis le mariage. Il s'agit d'avoir un lien. Ce lien peut être un lien consacré par le mariage ou légalisé par le mariage, par le Pax ou par quelque autre forme, ou peut-être simplement le lien de deux personnes qui librement décident de faire leur vie ensemble.
Absolument. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je voulais écrire ce livre, c'est que je trouvais que la discussion l'année dernière avait été vraiment hantée, occupée par des camps qui n'était pas descriptif. Il y avait bien sûr le camp clérical qui disait l'engagement, la promesse, la fidélité entre un homme et une femme, bon, d'un côté. De l'autre, les nouvelles sexualités, les homosexualités, qui mettaient en avant une valeur, l'égalité, qui est forcément la nôtre. Enfin, on ne peut pas être insensible à ça. Mais que je me situais vraiment en dehors de ça. Ça ne ressemblait pas à mon expérience, que ce n'est pas d'un engagement sacralisé et public dont j'avais envie de parler, mais j'avais envie de parler d'une pratique commune, parce que c'est celle de, je ne sais pas, très certainement la grande majorité. Et je ne voyais pas pourquoi la majorité était forcée de rester silencieuse, et je ne voyais pas pourquoi des modes de vie où le soin de l'autre, l'attention à l'autre, le fait de chérir quelqu'un, qui sont tellement importants parce que ça donne une telle force de penser de penser gentiment à quelqu'un dans la journée, ces formes-là n'avaient pas d'expression, étaient sans voix, je dirais.
Alors, deux questions se posent. D'abord, évidemment, homosexuel ou pas homosexuel, là on parle du véritable lien humain, des normes qu'il porte et de la capacité à deux, précisément parce qu'on est deux, comme le disait Jean Ferrat, hein, ce monde moderne où on a oublié ce que c'est qu'être deux, à deux d'atteindre une certaine forme de bien qui devient commun et qu'on ne peut pas atteindre seul. Mais quel est le rôle de la sexualité là-dedans? Parce que ce qui fait la caractéristique quand même de la vie dite de couple, oui, c'est la sexualité pratiquée ou pas pratiquée.
C'est le présupposé d'une vie sexuelle, bien sûr.
Qu'à l'origine, il y a une attirance sexuelle, une réalisation sexuelle.
Oui, et même juridiquement, hein, même dans les discussions sur le Pax, on disait que la fidélité devait être légalement présente parce que ce lien supposait une vie sexuelle commune. Alors, pour moi, c'est l'entrée dans la vie de couple. Que, bien évidemment, il ne peut pas y avoir formation de couple sans l'attirance sexuelle. C'est le point de départ. Mais est-ce que c'est le centre de ce que j'essaie de décrire comme vie de couple? Franchement, je ne crois pas. Franchement, je pense que ce qui est central, c'est l'entente. Et l'entente, si vous voulez, la vie sexuelle, au bout de 3-4 ans, elle peut continuer parce que on peut avoir de la bienveillance mutuelle, le désir d'apporter à l'autre des jouissances, mais elles n'auront certainement pas le caractère exceptionnel ou la stridence de la sexualité naissante. La sexualité naissante, elle fait peur parce qu'on ne sait pas si elle est approuvée, si on est accueilli, si un geste va plaire ou dégoûter. Il y a tout ce risque du début sexuel qui rend les choses extraordinaires, qui est forcément épuisé. Alors une fois que c'est épuisé, eh bien, la sexualité, elle est une menace parce qu'elle est plus forte dehors que dedans. Il n'y a pas de doute qu'on protège forcément son couple des excitations extérieures. Donc c'est pas la sexualité, contrairement à ce que les magazines féminins clament numéro après numéro, c'est pas la sexualité qui est le facteur de formation de cette communauté, de durée de cette communauté, c'est l'effort. Enfin, l'effort, est-ce que c'est un effort, c'est un plaisir, c'est un goût en même temps, de s'entendre. Et s'entendre, c'est quelque chose qui a une face intellectuelle, parce que s'entendre, ça veut dire se comprendre, et qui a une face sensible. Et c'est ce penchant permanent pour se demander qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui lui fait plaisir, cette espèce de manière dont toute une part du cerveau se demande où est l'autre, que veut-il, qui fait la consistance même du couple.
Alors, laissons de côté la sexualité, parce que là, les expériences sont très différentes et certains couples se font un défi de toujours trouver quelque chose de nouveau, précisément pour éviter le phénomène que vous avez décrit. Mais revenons sur la question de l'entente. Cette entente, c'est une forme d'intentionnalité. Au fond, cette orientation des états mentaux, de la volonté, de la perception, même, c'est-à-dire on ne perçoit pas une belle chose, mais on perçoit une belle chose relationnellement à l'autre. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? Est-ce qu'il aurait aimé? Est-ce que ça peut lui faire plaisir, etc., comme vous le rappelez très bien. Mais encore une fois, qu'est-ce qui distingue le couple, l'autre, du qui a été un autre amoureux ou qui l'est encore par rapport au souci extrême qu'on a d'un enfant ou le souci extrême qu'on a d'une personne proche? Pour en revenir au couple, il est vrai que le couple installé, qu'on a très vite tendance d'ailleurs à appeler un vieux couple, hein, au sens d'un couple vieilli et donc d'un couple usé, le couple installé est un couple que l'on pense menacé par l'ennui. D'ailleurs, au début de votre livre, vous rappelez un bref échange avec une de vos amies qui vous dit mais quoi, on s'ennuie pas ?
Il y a un ennui qui est une forme d'oppression, d'angoisse, la vie sera toujours ainsi. Bon, il n'y a aucune raison d'accepter l'enfermement vivant. Montesquieu dit une jolie chose sur le fait que être marié sans avoir le droit du divorce ressemble à un supplice qui consistait à être attaché vivant à un cadavre. Bon, il n'y a aucune raison, bien sûr, de supporter ces situations angoissantes. Donc je suis pour le divorce, il faut le dire. Mais il y a une autre dimension de monotonie, il ne se passe rien, on est sur la table plane de l'existence, on est dans cet âge mûr où il n'y aura plus de nouveautés, il n'y aura plus d'enfants, il n'y aura plus on ne va plus y gagner. Et où on se trouve souvent dans la même pièce sans aucune espèce de réaction à l'autre, parce qu'il est devenu chair de ma chair, parce que justement je ne suis pas stressée du tout par lui, parce que je n'ai pas peur de lui, et on est dans la pièce comme si on était seul. Eh bien, je trouve que à partir de là, s'insurger contre lui, c'est faire un très mauvais procès.
Alors, ça, c'est une description quand même qui correspond à une partie de la réalité. Une autre partie de la réalité, c'est de voir cette relation à l'autre, et précisément parce qu'elle est nourrie de complicité et d'entente, se transformer peu à peu en menace sur soi, c'est-à-dire en menace de répétition, en menace de persister dans le même. Et nous devons observer, parce que c'est une chose qui alimente une grande partie de la littérature, que certaines psychologies de femmes ou d'hommes résistent se révolte contre cela, et c'est ce qui explique des ruptures que rien ne paraissait annoncer, parce que le couple s'entendait bien, tout avait l'air d'aller pour le mieux, mais précisément dans ce mieux, quelque part, par l'un ou par l'autre, une terrible menace a été perçue, c'est-à-dire une menace d'immobilisation, et donc une forme de figure de mort.
Alors, c'est l'extraordinaire citation de Tolstoï que je fais au début, elle est formidable, cette citation. C'est quand mon mari disait quelque chose, je croyais toujours savoir, je pensais toujours savoir.
J'étais sûr de savoir tout ce qu'il allait faire, tout ce qu'il allait dire, quel air il allait prendre. Et si ses actes, ses attitudes n'étaient pas conformes à ce que j'attendais, j'avais l'impression que c'était lui qui se trompait.
C'est génial. C'est absolument génial. Bon, mais c'est le moment où connaissance fine dont je parlais n'est plus la ressource de l'amusement, mais est quelque chose sur quoi on s'adosse. C'est-à-dire, on a une sorte de certitude de l'autre, on bétonne cette certitude, et donc, en effet, on peut s'appuyer dessus.
On le fait ou on le fait pas, mais l'autre peut avoir le sentiment qu'on le fait, ou l'autre et d'être peut redouter qu'on le fasse, même si c'est sans raison, et même si, au contraire,
il peut tout à fait redouter d'être réifié par la connaissance
donc,
qu'on a de lui.
La question que je voudrais vous poser, c'est quelle est la part de la grâce divine, comme métaphore, évidemment, il n'y a aucune référence théologique, mais c'est cette espèce de bonheur des choses, et quelle est la part du volontarisme? Est-ce que des actions doivent être faites? Est-ce qu'une vigilance particulière, une sorte d'alerte intérieure doit être toujours maintenue pour que, précisément, cet approfondissement de la connaissance de l'autre ne risque pas, à un moment, de se présenter, à tort ou à raison, de façon justifiée ou non, comme une effroyable prison, toute dorée, mais qui condamne à l'immobilité, ce en quoi, à partir d'un certain âge, les personnes redoutent de voir une image de la mort, de la disparition.
Tout de même, il me semble que il n'y a pas des do mais des don't. Et le don't, le premier, c'est la représentation conflictuelle de la conjugalité. Ça me paraît une folie de notre temps, de penser qu'il y a un droit à la scène de ménage, que la scène de ménage assainit les choses, que la scène de ménage est comme le tonnerre, après quoi vient le ciel bleu. Ça me paraît une très grande sottise. Ça vient peut-être de l'impatience, du stress, je ne sais pas quoi, mais il y a une tolérance à la violence intime, à la violence des ménages, qui est assez idiote.
Mais qui est un recyclage de la passion, de la fonction cathartique de la passion et de ses excès. C'est la manière dont elle est domestiquée dans la longue durée d'une relation aussi. Parce que la scène de ménage est suivie de réconciliation, que l'on sait ardente.
Oui,
mais qui sont dangereuses.
Alors, il y a en effet tout ce qui peut être lié à de la violence sexuelle et du ressentiment et de je te soupçonne de m'avoir trompée et des choses comme ça. Et puis, il y a aussi une partie idéologique qui est liée à la façon dont l'analyse féministe percole jusqu'à l'intérieur de l'intimité du couple et où des thèmes sociaux comme le partage des tâches ménagères ou des choses comme ça, va alimenter des querelles intestines et faire qu'on regarde la promotion de l'autre comme un déficit, parce que soit on n'a pas eu de promotion. Et évidemment, ça, c'est tout à fait catastrophique, puisque si on veut fabriquer une communauté, c'est-à-dire un nous, il faut évidemment souffrir des douleurs de l'autre et se réjouir de ses joies. Enfin, il faut. Je veux dire, il y a communauté quand ça se passe comme
combien
ça.
Combien le désir, combien ils parviennent.
La communauté, c'est quand c'est comme ça. C'est quand on ressent vraiment intimement les chagrins de l'autre et qu'on est épanoui par ses succès. Alors, si au contraire, on conflictualise à l'intérieur et qu'on se dit qu'on a le droit et qu'on tient à ses arguments, à mon avis, le je donne pas cher du couple parce que c'est extrêmement dangereux quand on commence, comment dire, à entrer dans un truc agonistique, si un gagne, ça veut dire que l'autre perd. Et donc, là, il n'y a plus de... il n'y a plus de joie commune possible.
À genoux et on continue comme ça. Mais donc, à pratiquer l'indulgence est absolument fondamental. Une certaine forme d'indifférence aussi, ça peut être alors là, un danger d'un autre type et tout aussi redoutable pour un couple. Mais dans un couple et dans un mécanisme à deux, il y a aussi des phénomènes conscients, des comportements conscients ou non conscients d'abus pur et simple. Donc, qui pose les limites? On a tendance à considérer aujourd'hui que c'est un enjeu du moi qui consiste à poser les limites pour éviter que l'autre aille trop loin ou d'être abusé.
C'est absolument pas un problème auquel j'ai réfléchi. C'est-à-dire que je réfléchis tout à fait à l'envers, c'est-à-dire aux égards qu'on peut avoir mutuellement, au plaisir qu'on peut se faire. J'imagine pas une situation où l'autre voudrait abuser de moi ou moi de l'autre. Enfin, si vous voulez, cette question de l'abus, je la vois partout dans le monde extérieur où on peut essayer de me coller des tâches que j'ai pas envie de faire. Mais alors peut-être que j'ai de la chance ou que j'ai bien ordonné les choses, mais j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est de l'ordre de l'injustice, l'abus, l'agonistique, c'est dehors et que le couple, c'est l'espace de l'entente et de la ressource.
C'est-à-dire, alors à ce moment-là, par définition, le couple est ce qui n'est pas frappé par cela. Mais beaucoup de couples réels, malheureusement, essaient de titubent dans une sorte de peut-être pas de violence ordinaire, mais en tout cas de revendications un peu désordonnées entre lesquelles ils ont du mal à trouver un équilibre. Ce qui explique évidemment que beaucoup de couples ne durent pas.
C'est pour ça que la question du choix amoureux est centrale. C'est pour ça que la littérature, en particulier du XVIIIe siècle, et en particulier Marivaux, est extrêmement éclairant. Rousseau aussi, penser que choisir la personne avec qui on va vivre, c'est pas perdre la tête. C'est pas perdre la tête. Alors que dans notre monde, on a l'impression que c'est quelque chose d'éperdu, une expérience de l'extrême, alors qu'on peut garder une étrange lucidité dans ce moment de grâce où on donne son cœur. Et je crois que c'est très important de faire sentir à nos contemporains, nos contemporaines, je parle des femmes en fait, c'est pas la peine de faire semblant, que cette dimension du choix existe et qu'elle est essentielle pour nous.
Vous citez un cas extrêmement frappant et tout à fait convaincant, extrait d'un roman de Tom Wolfe, Un homme, un vrai, histoire classique, un homme quitte sa femme. En effet, vous dites, qu'avait-elle? Elle avait son âge, elle s'était dévouée pour sa carrière, donc qu'avait-elle à opposer devant le choix d'épouser une femme beaucoup plus brillante et beaucoup plus riche et beaucoup plus belle, évidemment, et surtout beaucoup plus jeune. Quelques années passent. Un matin au réveil, vous citez cet extrait extraordinaire, le héros se réveille à côté de sa jeune femme, qui est sa femme depuis quelque temps. Mais qui était cette femme? Comment diable était-elle arrivée ici? Ces questions le firent sursauter, puis il s'aperçut qu'il se les posait depuis 30 mois, alors qu'il n'était marié que depuis 36 mois.
Quand est-ce qu'elle va s'en aller? C'est la fin de ce passage. C'est un passage très étrange qui montre le caractère à la fois désirable comme une chambre d'hôtel magnifiquement propre par rapport à l'endroit où vous habitez. Vous savez, ces chambres d'hôtel où tout est flatteur, où en même temps le sentiment d'être chez soi est totalement absent et où le plaisir extrême ne peut pas durer. Il y a quelque chose là de déshumanisé.
Mais qu'est-ce qui est perdu? Parce que, bon, évidemment, il y a des couples recomposés qui durent, mais il y en a en effet qui, au bout d'un certain temps, aboutissent à ce genre de situation. Il y a sinon un retour à la forme de vie précédente, du moins l'entrée dans une sorte d'insatisfaction ou d'incomplétude et le sentiment, en effet, quelque chose d'essentiel à soi a été perdu en même temps qu'a été perdu la familiarité de la vie de couple passée. Donc, pouviez-vous l'analyser, ça? Qu'est-ce qui est perdu? Quand vous dites, on n'est plus... héros-là, c'est un cas parmi d'autres, il y en a la psychologie est infiniment variée, mais que ressent-il comme perte du chez-soi?
Moi, je pense que ce dont on est amputé quand on perd le couple qu'on avait formé, c'est vraiment de ce travail invisible et silencieux qui créait la communauté et qui est un développement d'aptitudes psychiques, de formes de plaisanterie, manière de voir les choses qui appartiennent à l'autre, qu'on a imité pour lui faire plaisir, parce qu'on se synchronisait à lui, et qui devient inutile. Donc il y a une partie de soi qui est sans objet, qui sera toujours sans réponse, qui est là comme veuve.
Et qui peut exister même si on ne regrette pas d'avoir quitté d'une certaine manière. Ce sentiment de perte est compatible avec le fait d'avoir le sentiment qu'on ne pouvait pas rester dans ce couple-là. Et ce qui explique que certaines personnes qui prennent l'initiative d'une séparation, eh bien, étrangement, souffrent autant que la personne abandonnée.
Absolument. Il y a un développement de soi qui est à présent sans objet.
Alors, vous insistez beaucoup sur, et à juste titre d'ailleurs, parce que cela met au premier plan, au fond, l'ambition morale d'un lien humain, quel qu'il soit. Peut-être une amitié, peut-être une relation entre deux personnes de même sexe, et certainement la relation telle que certains peuvent la souhaiter entre un homme et une femme. La portée morale de ce type de lien humain, au sens où, bien, d'une certaine manière, on recherche une forme de bien ensemble. Alors un bien qui est très partiel, hein, ou très partial même, puisqu'il est défini dans l'espace de la relation. Mais et il est vrai que les personnes qui réussissent là sont en général beaucoup plus ouvertes aux autres et font de l'expérience du couple une sorte de travail pratique, d'exercice pratique de la générosité. D'un autre côté, on peut vous opposer que l'égoïsme à deux peut être effroyable aussi.
Oui, bien sûr. Non, mais je suis certainement pas en train de vendre une forme de vie en disant qu'elle est plus morale. Je suis tout à fait certaine que Mère Teresa est plus morale que la plupart des couples. C'est certainement une morale limitée, un bénéfice moral limité à l'entre-soi. Et vous aviez raison de le dire, toutes les relations dans la vie ne sont pas morales. Vous parliez de l'abus tout à l'heure, la relation de Tartuffe et Orgon n'est pas une relation morale, il y a des relations abusives, bien sûr. Donc c'est ce qui me paraît un exercice pratique du bien, mais du bien, alors vraiment ras bitume, pas du tout l'éthique avec un E majuscule, c'est simplement ce reposoir des pensées douces, c'est-à-dire que dans le bain...
Vous dites, encourage les pensées bonnes, pas simplement douces, bonnes aussi.
Oui, parce que vouloir du bien à quelqu'un, c'est un... je pense que c'est quelque chose qui donne beaucoup de santé morale, et beaucoup de force, et que si vous avez quelqu'un qui vous marche sur les pieds au travail, une humiliation quelconque, une indignation désagréable, mais que vous vous dites qu'est-ce que je vais lui faire à manger qui lui plaise, ça apaise les choses, ça crée un autre espace, ça crée un autre espace à côté du monde conflictuel. Donc oui, je trouve qu'il y a un bénéfice des petits bonheurs. Voilà.
Et en contiguïté, c'est un geste de don, d'une certaine façon, qui est en continuité avec la conversation. Nul plaisir n'a saveur pour moi sans communication. Il ne me vient pas seulement une gaillarde pensée en l'âme, qu'il ne me fâche de l'avoir produite seule, n'ayant à qui l'offrir.
Oui.
Montaigne.
Alors, cette belle formule de Montaigne, elle dit quelque chose sur le masculin. C'est-à-dire que Montaigne, il est fâché s'il n'a personne à qui l'offrir. La communication, elle va tous azimuts.
Ne pensez-vous pas qu'une femme peut se dire la même chose ?
Eh bien, je pense que mon désir de couple, ce désir gémellaire dont je parlais, de donner à quelqu'un la priorité, si ce n'est le monopole, bien sûr que des amis j'en ai, oui, mais donner ce caractère central à quelqu'un, c'est lié à une situation où le couple n'est pas pour une femme la même chose que pour un homme. Il y a une dissymétrie, cette dissymétrie, elle est liée à notre absence de liberté et notre vulnérabilité. Je sais bien que c'est des thèmes qui sont ringardisés, c'est pas des choses qu'il faut dire. N'empêche que quand vous êtes une jeune fille, vous ne pouvez pas faire de stop, vous ne pouvez pas dormir à la belle étoile. Ou vous prenez des risques, c'est-à-dire que vous le ferez en serrant les dents et en apprenant le karaté, parce que ça va pas de soi. Et dès que vous êtes en couple, toutes ces choses, la terre s'ouvre à vous. Vous êtes libre de le faire. Inversement, pour un homme, être en couple en ce sens, c'est-à-dire en s'impliquant, en ayant un projet de longue durée, c'est au contraire limiter ses impulsions, ses trajets, et avoir la responsabilité, peut-être même la pitié chez certains héros de Kundera pour cette chose fragile qui est à côté. Donc, pour une femme, l'entrée dans le couple est une expansion. Le monde s'ouvre. On rigole contre les héroïnes du 18e qui disent « je me suis mariée parce que je voulais aller au bal et que j'en avais marre d'être au couvent ». Mais d'une certaine manière, cette situation n'est pas étrangère à ce que nous vivons. Nous n'avons pas la même liberté sur cette terre que les hommes.
Mais est-ce que cela vaut pour les jeunes filles d'aujourd'hui qui se présentent souvent comme des guerrières, prêtes à tout conquérir ? L'une d'entre elles vient de traverser l'Atlantique à la rame, quand même, il faut le faire, ça.
Elles se présentent comme des guerrières, ce qui fait qu'elles ont des existences qui sont difficiles, elles serrent les dents, je les admire pour les efforts qu'elles font, mais ne croyez pas que ce soit aussi facile de dormir dehors pour une fille que pour un homme. Le sexe vulnérable, ça a un sens. Il y a un des deux sexes qui se fait violer, pas l'autre.
Malheureusement, ça, c'est peut-être des choses qui pourront changer. C'est très difficile de se prononcer de manière définitive sur cela. Alors, dernière question. Beaucoup de personnes, et surtout des femmes, étrangement d'ailleurs, parce qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes, mais pourquoi ce sont surtout des femmes qui vivent seules ? Pourtant, certaines d'entre elles ont essayé de vivre en couple, certaines d'entre elles souffrent de ne pas vivre en couple. Et quelle est la part du hasard et quelle est la part, encore une fois, pour revenir à ma première question, de la volonté humaine, et quelle est la part d'une extraordinaire chimie des caractères qui permet de donner une chance à l'affinité des êtres.
Je ne comprends pas comment il peut y avoir plus de femmes seules que d'hommes seuls.
Et pourtant, on l'observe.
Si ce n'est qu'elles vivent plus longtemps. Mais enfin, à part le déséquilibre démographique, comme il y en a autant, il devrait statistiquement y avoir autant de femmes en couple et autant.
Mais c'est parce que parfois les hommes ont plusieurs femmes quand même.
Vous pensez à la polygamie secrète qui.
Non, mais ils ont accès à une gamme de femmes de tous âges.
Et à ce moment-là, vos femmes seules ne sont pas si seules. Si vos hommes ont plusieurs femmes, vos femmes seules bénéficient d'un cinquième d'homme ou de quelque chose comme ça. Non, je pense qu'il ne peut pas y avoir de déséquilibre si ce n'est démographique. Et en effet, il y a un déséquilibre démographique en notre faveur, qui est que comme nous vivons plus longtemps, nous sommes forcément à un moment, enfin statistiquement, on peut évidemment mourir avant, mais la plupart du temps, on a statistiquement cette période terrible de veuvage devant nous. Et je crois que c'est ça le déséquilibre.
Donc faveur des dieux, circonstances extraordinaires, chimie inexplicable ou bien quelque chose qui relève de la volonté humaine ?
Alors, je crois que ce qui relève de la volonté humaine, c'est de ne pas briser, de ne pas abîmer, de ne pas provoquer, de ne pas dire que l'adultère, ça fait du bien au couple comme les magazines le disent.
Et quand ça arrive ?
Ah bah quand ça arrive, je suis d'accord, Monique. Bien sûr que la seule chose possible, c'est l'indulgence. Mais entre le droit à et le fait, il y a quand même un abîme.
Merci, Claude Abîme. Merci pour cette discussion. Et merci à François Connac qui a réalisé cette émission. Merci à Bruno Mourlan qui a été à la technique. Merci à Marie Dalquier.
Sans arrêt roulait ses galères, les cheveux défaits, ils se regardaient dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignaient la plage. Ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait. La même innocence les faisait trembler devant le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Dehors, ils ont passé la nuit l'un contre l'autre. Ils ont dormi sans tomber dans l'eau comme deux oiseaux. Sous le baiser chaud de leur bouche tendre. Et c'était comme si tout recommençait. La vie, l'espérance et la liberté. Avec le merveilleux. Voyage.
Tout de suite, vous retrouvez Marie Richeux pour Pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain à la même heure. Très bonne semaine pour tous.